Bonjour à tous. Merci David pour cette présidence qui nous donne une ligne pour suivre concernant l'intégrité. Et tu as parlé tout à l'heure de qui pourra séjourner sur la montagne de Dieu, qui est le symbole de notre relation avec le Seigneur, avec notre Dieu. Être sur la montagne de Dieu, c'est être vraiment en communion avec lui, vivre pour lui et dépendre totalement de lui. Nous allons rapidement nous rappeler des deux dimanches passés de la parole que le Seigneur nous a donnée à travers Jean-Marc et moi-même. Le dernier dimanche, Jean-Marc nous a parlé de l'importance de la prière. Il a pris l'exemple de Anne, qui était vraiment une femme et qui savait se confier à Dieu dans sa souffrance, l'invoquer, et effectivement, le Seigneur n'a pas manqué de lui répondre et de lui donner Samuel, qui a été consacré pour Dieu et aussi nous appelle à la consécration. La prière nous amène à la consécration. Et le dimanche passé, aussi l'avant-dernier dimanche, nous avons parlé aussi du combat spirituel. Et nous avons pris l'exemple d'Élisée, qui savait aussi, lui, écouter Dieu, qui savait vraiment que Dieu était avec lui et qui savait aussi que la stratégie de Dieu est infaillible. Voilà, donc nous sommes dans cette même lancée de notre relation avec Dieu parce que c'est important. Je sais que les vacances sont là, mais notre relation avec le Seigneur n'est jamais en vacances. Nous pouvons nous reposer, nous souffler, prendre des forces physiques, mais spirituellement, nous continuons vraiment de nous unir à lui et de nous rester connectés à lui et à sa présence. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur de nous partager ensemble un texte qui parle de Saül, mais surtout qui va nous relever quelques angles morts dans le combat spirituel. Et vous savez tous que les angles morts ne préviennent pas. En conduisant sur la route, il y a ce que nous voyons devant nous et il y a ce que nous ne voyons pas forcément sur notre champ de vision. Et donc, on doit être prudent, faire attention à ces angles morts de notre relation avec Dieu. Nous allons lire 1 Samuel 28, dans la continuité de Samuel qui est né, qui a grandi devant le Seigneur, qui s'est consacré et finalement qui continue à être utile dans la main de Dieu. 1 Samuel 28, verset 3 à 23. J'aimerais demander 5 lecteurs de lire parce que les récits pour partager quelque chose déçu, il faut vraiment lire beaucoup parce que si tu prends une partie et tu laisses une partie, ça risque de ne pas être comme nous voulons le traiter. Donc 1 Samuel 28, verset 3 à 23. J'aimerais demander 5 lecteurs. Que chacun puisse lire 5 versets et à haute voix pour que ceux qui nous suivent via Zoom puissent aussi entendre. Et nous les saluons de passage.
Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré. Samuel était mort. Tout Israël elle avait pleuré et on l'avait enterrée à Ramah, dans la ville. Saül avait été du pays, avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte. Et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par les songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Verset 7.
Saül dit alors à ses serviteurs, cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. Ses serviteurs lui dirent, à Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. La femme lui répondit, tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie? Veux-tu me faire mourir? Saül lui jura par l'Éternel, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. La femme demanda, qui veux-tu que je fasse monter pour toi? Il répondit, fais-moi monter Samuel.
Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, pourquoi m'as-tu trompé, tu es Saül? Le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu trouvé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les sons, et je t'ai appelé que tu me fasses connaître ce que je dois faire.
Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donné à un autre. Tu n'as pas obéi à l'Éternel, tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi, et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Aussitôt, Saül tomba à terre de tout son nom. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit.
La femme, puis il était terrifié et lui dit, voici ta servante à obéir à tes ordres. J'ai resté ma vie pour faire ce que tu m'as demandé. Maintenant, je te prie. Écoute aussi la voix de ta servante. Laisse-moi te servir un morceau de pain, mange, afin que tu aies des forces pour prendre ta route. Saül refusa en disant, et je ne mangerai pas. Mais c'est aux fonctionnaires et leurs femmes nécessaires, si bien que tu ne pas céder à leur instance. Il se releva et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle au bout par en ouest et se batta de la rabattre, prit de la famille et les pétrit pour en cuire les pains sans doigt. Elle servait ce repas à sa route et ses autres fonctionnaires y mangèrent, puis ils se mirent en route pour partir en banquier de
Amen. Merci pour votre lecture. Nous voyons ici que dans la vie spirituelle, il y a des angles morts. Dans notre vie spirituelle, il peut y avoir des angles morts. Dans notre vie de famille, dans notre vie de service, ou aussi dans la vie de l'Église, il peut y avoir des angles morts. Ce récit de la fin de Saül est sombre et triste. Saül était en guerre contre les Philistins. Pourtant, cette guerre ne semble pas être soutenue par Dieu, car Saül avait délibérément rompu sa relation avec Dieu, avec Samuel, puis avec David, qui devrait lui succéder. Il se contentait d'une obéissance partielle. Par exemple, si nous reprenons 1 Samuel 15, versets 9 à 21, on voit que lorsque Dieu envoya Samuel vers Saül pour lui dire sa désobéissance, immédiatement, il a répondu « Oui, que l'Éternel te bénisse. J'ai exécuté l'ordre de l'Éternel. » Et finalement, Samuel était étonné en voyant qu'il a épargné Agag, le roi d'Amalek, et aussi en voyant qu'il avait laissé épargner aussi tout ce qui était bien, comme les béliers, les animaux, les taureaux qu'il pouvait bénéficier, il a épargné tout ça, il a mis ça tout de côté. De plus en plus, Saül oublie qu'il ne peut pas se contenter juste d'une obéissance partielle. Il va sombrer dans une terrible défaite car l'Éternel s'est retiré de lui, comme lui-même il le prononce dans ces versets que nous avons lus. Pourtant, dans ses précédentes victoires contre les Moabites, les Amalèques, les Amoriens, les Édomites, les Philistins, Dieu était avec lui, Dieu lui parlait et Dieu dirigeait les combats par le biais de Samuel dans sa prière, comme aussi il dirigeait les combats au temps du roi de Joram que nous avons lu le dimanche passé en 2 Rois 6. Nous voyons que par l'intermédiaire de Élisée, Dieu dirigeait les combats et donnait la victoire à son peuple. Dès lors, sa relation avec Dieu va de plus en plus se dégrader à cause de sa désobéissance, de sa rébellion contre Dieu et aussi contre sa parole. Dès lors, nous voyons que lorsque sa relation avec Dieu s'est dégradée, sa relation aussi avec les hommes a commencé à se dégrader. Constamment, il ne veut plus écouter Samuel. Il prenait Samuel comme quelqu'un qui voulait passer juste ses propres désirs, ses propres volontés. Et finalement, il rejetait la parole de Dieu en pensant que c'était la parole juste de Samuel. Et cela va lui conduire à se livrer vraiment d'une manière totale contre David, et aussi contre tout cela qu'il pensait qu'ils étaient en lien avec David. Nous allons voir dans ce chapitre 15 à 28, on va voir qu'il va tuer les sacrificateurs. Il va passer dans tout le pays et il va voir que là où David pouvait avoir le refuge, il les massacrait parce qu'il ne voulait pas surtout que ce que Dieu a dit puisse s'accomplir. Et donc, Samuel, aujourd'hui, comme nous l'avons lu, est mort. Il ne peut plus le consulter. Il ne peut plus demander pardon. Il ne peut plus revenir en arrière. Et tous les canaux spirituels par lesquels Dieu parlait à son peuple étaient coupés, puisqu'il a tué les sacrificateurs. Et ensuite, il a rejeté et Samuel est mort. Et sa parole n'est plus possible d'être entendue parce que tous ses canaux étaient coupés. Donc, ce qui reste, c'est le canal que lui-même il avait combattu, c'est-à-dire les spirites, les sorciers, les astrologues, les chiromanciens qui étaient dans et que lui-même il a combattu, il a neutralisé du pays. Et pourtant, tous ces canaux étaient contre Dieu. Et là, nous voyons dans ce texte quelque chose de bizarre. Le bizarre du fait que ce que Saül a combattu, il va revenir pour chercher à consulter ces personnes-là. Donc, comment ce récit peut nous aider aujourd'hui? Comment ce récit peut être utile à la suite du message de 2 Rois 6 que nous avons entendu? Comme nous avons dit au début, il y a des angles morts dans le combat spirituel. Et quels sont les angles morts ici? Nous pouvons relever 3, mais peut-être il y en a. Vous pouvez retrouver d'autres angles morts dans ce récit, mais nous allons relever 3 seulement et essayer de comprendre parce que ça peut nous servir aujourd'hui individuellement dans notre propre vie spirituelle, dans notre foyer ou dans notre lieu de travail. D'abord, une relation interrompue. Nous voyons que ça, c'était un angle mort que Saül ne voyait pas. Saül ne voyait pas que sa relation avec Dieu était interrompue. Il n'est plus sur la montagne. La montagne, c'est la relation avec Dieu. Cette relation que nous devons garder jalousement. Je peux tout perdre, mais ma relation intense avec le Seigneur, je ne dois pas jouer avec. Deuxième angle mort, une souffrance accrue. Nous voyons que Samuel et Saül va sombrer dans une souffrance. Et peut-être il ne sait pas pourquoi il souffre. Au verset 5, nous allons voir qu'il était en détresse. Et le dernier que nous allons relever, c'est une faiblesse spirituelle profonde. 3 angles morts. Une relation interrompue, une souffrance accrue, une faiblesse spirituelle profonde. D'abord, une relation interrompue. Quelles sont les raisons de la peur et de l'angoisse de Saül? Verset 5. Le verset 5 nous dit que Saül, quand il a vu le camp de l'ennemi, il a eu peur, il était dans l'angoisse, il était terrifié, comme nous pouvons voir aussi dans la prédication passée sur 2 Rois que Géasi était, quand il a vu les ennemis, il a pris peur. Il a été angoissé. Il est saisi de peur et de tremblement. Nous pouvons voir que ces raisons sont simples, mais c'est des angles morts. Peut-être Saül ne voyait pas de cette façon. Saül voyait que c'est David qui est dans son champ de vision. Saül voyait que c'était Samuel qui voulait juste passer ses propres volontés, ses propres désirs. Saül voyait simplement les sacrificateurs qui sont là en train de soutenir David. Donc, je vais aller les exterminer. Là, je serai plus tranquille. Saül voyait simplement garder le trône. Ça, il voyait ça clairement. Mais l'autre côté qu'il ne voyait pas, c'est le fait que volontairement, il a interrompu sa relation avec Dieu. Par l'orgueil, la désobéissance, et même il va dire, lorsque Samuel est allé le voir, « Pourquoi tu as désobéi à Dieu ?» Il a dit, « Non, je n'ai pas désobéi. J'ai obéi, j'ai fait le combat, je suis allé au front. J'ai eu la victoire. » Simplement, parce que mes soldats m'ont mis la pression. Ils m'ont dit, non, il ne faut pas détruire tous les animaux, on en a besoin. Et donc, j'ai cédé. Saül et ses soldats épargna Agag, le roi d'Amalek, ainsi que les meilleurs animaux du butin. Ils ne voulurent pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. En revanche, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. Verset 7 de 1 Samuel 15. Donc, nous voyons que volontairement, il n'a pas allé jusqu'au bout. Il a obéi à demi et il a obéi à moitié. C'est pourquoi l'obéissance à moitié est une désobéissance. L'obéissance, la vérité à moitié est un mensonge. Saül rejette l'Éternel par l'insoumission et l'Éternel le rejette aussi. Il ne peut plus compter sur le Seigneur pour gouverner Israël. 1 Samuel 15, verset 23. Saül a oublié que l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance est aussi grave que le péché de l'idolâtrie au verset 23 de 1 Samuel 15. Saül fait une repentance aussi à moitié. Il obéit à moitié. Il dit la vérité à Samuel à moitié. Il n'a pas tout dit. Il a dit, j'ai exécuté l'ordre de l'Éternel, pourtant en épargnant Agag et les béliers. Ensuite, il fait une repentance aussi à moitié, c'est-à-dire superficielle, des larmes. Le Seigneur est miséricordieux. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est juste. Le Seigneur est intègre, comme nous l'avons vu dans la présidence. Pourquoi le Seigneur ne lui a pas pardonné? Il a dit, Samuel, pardonne-moi ma faute, j'ai commis une faute, mais pardonne-moi. Mais tout ce que je veux, c'est que tu reviennes avec moi devant les hommes, devant le peuple. Voilà, se mettre devant l'Éternel. Et là, Dieu a dit non. Et souvent, ça nous pose la question, est-ce que Dieu peut refuser de pardonner quelqu'un? Je pense que non. Et vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu dit que Dieu est miséricordieux, il pardonne, même l'impardonnable, il pardonne. Mais ici, la vérité est que, est-ce que Samuel s'est repenti et Saül s'est repenti? Non. Il ne s'est pas repenti. Il s'est repenti juste à moitié pour ne pas, en se disant, je vais perdre la face devant le peuple. Je vais être déshonoré si je dis que j'ai manqué au but. Je vais être déshonoré devant Dieu. Donc, il faut laver ma face devant le peuple. Il faut que je ne sois pas honni devant le peuple. Donc, il rejette la faute sur les soldats. Il dit, non, ce n'est pas moi. C'est les soldats. Ils sont là, il faut les demander. Ils m'ont pressé, ils m'ont donné une pression terrible que je ne pouvais pas supporter. Et alors, j'ai obéi en disant, Agag, je t'épargne et aussi les béliers, je vais épargner. J'ai eu peur du mécontentement de mes soldats et j'ai cédé à leur demande. À présent, pardonne ma faute et viens avec moi et honore-moi devant le peuple. Voici la façon dont Saül s'est repenti. Le Seigneur, notre Seigneur, est plein de miséricorde et plein de bonté. Il veut que lorsqu'il y a quelque chose qui brouille notre relation avec lui, qu'on vienne tout simplement devant lui, sans masque, sans avoir peur, et lui dire clairement, réellement ce que nous vivons, ce qui ne va pas en nous. Seigneur, j'ai commis une faute, j'ai péché contre toi. Je sais que tu es plein d'amour et plein de grâce. Et je sais que tu peux me pardonner. Et tu m'as pardonné en Christ avec lui. Saül minimise la gravité de son péché en pensant que le messager de Dieu venant de Samuel est juste. Samuel veut simplement faire passer ses points de vue. Samuel veut simplement faire passer sa volonté en avant et il rejette immédiatement tout ce que Samuel lui apporte de la part de Dieu. Minimiser le péché, c'est dangereux. Le péché, le diable est content quand on minimise notre péché. Le diable est content quand on pense que notre péché, ce n'est rien. Oui, ce n'est rien parce que Christ a payé le prix. Mais nous, le fait d'affronter nos difficultés, nos péchés en face, devant le Seigneur, ça permet à Dieu de valoriser ce qu'il a accompli à la croix pour nous. Minimiser le péché, c'est dévaloriser la croix. C'est dire que la croix, c'est juste, Jésus est allé à la croix pour accomplir la volonté de Dieu, c'est tout. Oui, mais pour nous pardonner, pour nous laver, pour nous permettre que nous puissions avoir une relation intense avec le Seigneur, que notre relation avec lui soit une relation de communion intense avec lui. Saül recherche simplement à faire bonne figure devant Samuel et Samuel va lui donner une réponse peut-être qui ne va pas lui plaire. Je n'irai pas avec toi. Parce que Samuel voyait que Dieu n'est pas avec Saül. Samuel voyait que Dieu s'est retiré. Et c'est pourquoi Samuel dit, non, je n'irai pas, je ne vais pas aller faire bonne figure. Je ne vais pas simplement, devant les gens, dire quelque chose qui te plaît, alors que la réalité de ton problème avec Dieu n'est pas résolue. Sommes-nous prêts à tourner résolument vers le Seigneur quand le Saint-Esprit nous révèle notre faute, nos manquements? Sommes-nous prêts à nous tourner résolument vers le Seigneur quand le Saint-Esprit nous révèle notre faute, nos manquements? Sommes-nous prêts à nous repentir sincèrement? Sommes-nous prêts à chercher l'honneur de Dieu avant tout en nous soumettant à lui dans une entière obéissance? Chacun de nous peut se poser la question. Voici les angles morts. Les angles morts qui peuvent brouiller notre relation avec le Seigneur, c'est des moments où nous pensons être sur la montagne de Dieu, en communion avec lui, alors qu'il y a des choses à régler. Des choses à régler, c'est-à-dire, peut-être, je donne quelques exemples, le pardon. Le Seigneur nous dit, si vous avez quelque chose contre votre frère, avant d'aller à l'autel, déposez votre offrande à l'autel, repartez, revenez vers la personne à qui vous avez des soucis, des difficultés, demandez pardon et revenez donner votre offrande. Malheureusement, Saül ne va pas emprunter la voie de la restauration spirituelle, il va emprunter la voie du spiritisme. Il va s'enfoncer davantage. Une souffrance accrue, et cela va accroître sa souffrance. Samuel rentre chez lui avec un cœur lourd, car le Seigneur regrette ce que Saül était devenu. Samuel a suivi tout l'historique de Saül, puisque lorsque le Seigneur a choisi Saül, il avait perdu ses ânes, les ânes de son père, et il était en recherche. Il est allé voir Samuel, il a consulté Samuel et Samuel lui a dit, tiens, le Seigneur m'avait dit qu'un jeune homme allait venir aujourd'hui et c'est lui qui est ce jeune homme-là qui doit être un pour roi. Saül rentre chez lui à Gibéa et reprend le cours de sa vie. Mais sa vie était vide. Nous voyons qu'il, dans ce texte, qu'il ne mangeait pas. Il avait rompu sa relation avec Dieu. Et finalement, il rentre chez lui, vide spirituellement. Dieu le nourrissait physiquement. D'ailleurs, il a mangé lorsque ses soldats ont insisté, lorsque la femme a préparé à manger, il a mangé. Et il a repris les forces physiquement, mais spirituellement, il était vide. Dieu le nourrissait, Dieu le protégeait, Dieu subvenait à ses besoins. Il se contentait maintenant d'occuper le trône, mais il était sous le jugement de Dieu et Dieu préparait son remplacement. Souvent, en regardant ça, les angles morts sont complètement difficiles à discerner. Il faut du temps avec Dieu. Il faut réellement, comme David a parlé tout à l'heure, monter à la montagne de Dieu, rechercher sa face et voir qu'est-ce qu'il va nous dire. Peut-être il va nous parler avec sa parole. Peut-être il va nous dire, vous avez trompé de chemin. Peut-être il va nous dire, vous avez fait un mauvais choix, mais vous pouvez toujours revenir. Saül ne voyait pas ça. Il voyait les animaux, son trône, et aussi il défendait tout ce qui est matériel. Il est devenu matérialiste. Il est devenu le protecteur, le garant de tout ce qui est matériel. Tout ce qui est spirituel, il a perdu la notion de sa vie spirituelle, de la nécessité de sa relation avec le Seigneur. Et cela peut nous arriver tous. Ce n'est pas simplement Saül. Chacun de nous, à un moment de notre vie spirituelle, on peut être confronté à des choix. On peut être confronté à un temps où nous ne sommes plus sur la montagne, en communion réelle avec Dieu. Et le Seigneur veut aujourd'hui, ce matin, peut-être m'avertir. Peut-être me dire, Abdou, où es-tu? Où en es-tu de ta marche avec moi? Où en es-tu de ta vie de prière? Où en es-tu de ta consécration dans la parole de Dieu? Où en es-tu dans ton ministère? Où en es-tu dans ton service dans l'Église? Peut-être le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un, à chacun de nous. Personnellement, en préparant ce texte, ça m'a beaucoup parlé. Ça m'a beaucoup parlé parce que Saül ne voulait pas mal terminer. Et je sais que personne ne souhaite mal terminer. Chacun veut commencer bien, grandir, aller de l'avant, de succès en succès, même s'il y a des échecs parfois, mais quand même de se relever et à la fin, on arrive. Et on dit, Seigneur, merci, parce que tu m'as gardé jusqu'au bout. J'ai rencontré des difficultés, des obstacles, des épreuves. Je suis souvent tombé, mais tu m'as relevé. Et nous avons vu, chacun de nous veut être comme David. Au début, il a confronté des épreuves, des difficultés. Quand le Seigneur lui a appelé, au milieu de son ministère de roi, de la gouvernance du peuple d'Israël, il est tombé si bas. Mais David a dit chaque fois, Seigneur, je reviens vers toi, j'ai péché contre toi et toi seul. David a discerné ça. J'ai péché contre toi et toi seul. Et je reviens vers toi. Je supplie que tu me pardonnes. Et Saül, lui, il a dit, non, c'est les soldats qui m'ont pressé. C'est mes soldats-là. C'est eux la faute. C'est le peuple. C'est eux la faute. C'est pas moi. Et il a tout fait pour mettre la faute sur les autres. Que le Seigneur nous aide ce matin. Peut-être le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous révèle et nous mette vraiment les angles morts face, nous mette face aux angles morts que nous ne voyons pas spirituellement, les déceler et être à mesure, avoir le courage de dire, Seigneur, je veux que ces angles morts, que je puisse les discerner et les éviter afin de bien terminer. Parce que tu m'as appelé et j'ai tout abandonné pour te suivre. J'ai abandonné le monde, j'ai abandonné le matériel, j'ai abandonné tout ce qui était quelque chose comme bien. Et j'ai dit, Seigneur, tu es mon ultime bien. J'aimerais demeurer dans cet objectif. Tu es mon ultime bien. Que le Seigneur parle à chacun de nous par son esprit, afin que nous ne baissons pas les bras, afin que nous ne soyons pas découragés, nous ne gardons pas longtemps le découragement, les pleurs comme Saül, l'angoisse comme Saül, qui s'est mis dans l'angoisse pendant longtemps et cela lui a traîné vers des spirites, vers des sorciers, vers des personnes qui... des devins. Face à l'adversité, Saül ne sait pas sur qui maintenant s'appuyer. Il se tourne vers le spiritisme qu'il avait combattu, lorsqu'il avait une bonne relation avec Dieu. La truie, elle est venue dans la boue. À peine lavée, il retombe dans la boue. Saül fait venir un démon qui prend l'apparence de Samuel pour lui parler. Il avoue qu'il est dans une grande détresse, il est dans le tourment. Que faire? L'Esprit lui répond en donnant une cause de ses malheurs. Tu n'as pas obéi à Dieu. Tu n'as pas obéi à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit la parole de Dieu. Que le Seigneur nous aide, nous aussi, à obéir complètement notre Seigneur. Placer toute notre confiance en lui. Et se dire, Seigneur, je vais t'obéir jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Je ne vais pas faire des écarts. Je ne vais pas manquer le but. Je veux aller de progrès en progrès devant toi. S'il y a quelque chose dans notre relation, Seigneur, je viens à toi parce que je sais que tu es plein d'amour. Je sais que tes bras d'amour sont ouverts et m'attendent simplement comme le Fils prodigue. Il vient vers le Père en sachant que le Père, avec le Père, il a plus à manger que dans la porcherie. Une faiblesse spirituelle profonde. Le diagnostic est fait. Saül n'est plus en relation avec Dieu. Pour cette raison, il n'est plus à mesure de conduire ni sa propre vie, ni celle de sa famille, ni celle de son peuple. Sa propre vie ne peut plus la conduire parce qu'il est en détresse. Lorsqu'il a reçu le message de l'esprit, c'est un esprit, disons-le, on aura l'occasion de traiter en profondeur ces textes dans une étude ou dans une conférence. Mais ici, nous voyons que c'est un esprit qui s'est déguisé. Le diable se déguise en ange de lumière. Il a pris le visage et la forme de Samuel, mais ce n'était pas peut-être Samuel. Il connaissait la vérité, mais il va utiliser cette vérité d'une manière malsaine. comme il a utilisé devant, comme Jésus, avec, contre Jésus, en disant, il est écrit, le diable connaît la parole, les esprits connaissent la parole de Dieu. Ils vont réciter la parole de Dieu, mais est-ce qu'ils vont le réciter pour faire du bien? Non. L'esprit va lui dire, non, c'est parce que tu as désobéi à Dieu. Ça, c'est une vérité. Parce qu'il sait que Saül a désobéi à Dieu. Il n'a pas respecté la parole de Dieu jusqu'au bout. Il s'est contenté de demi-vérité, de demi-obéissance et de demi-repentance. C'est pourquoi j'aimerais revenir sur la prédication de notre frère Jean-Marc, la consécration. La consécration, ce n'est pas juste une participation. La consécration n'est pas juste une implication. La consécration est un engagement total. Total avec ce que nous sommes. Quels que soient les temps, quels que soient les moments, quelles que soient les difficultés, nous y sommes. Ça, c'est l'engagement. Ça, c'est la consécration. Et Saül a voulu juste faire ce qui est nécessaire. Juste ce qu'il faut. Juste ce que le peuple ne soit pas mécontent. Juste ce que le peuple ne se décourage pas. La profondeur de son état spirituel pourrait manifester 4 signes. 4 signes. Une consultation des morts pour savoir ce qu'il doit faire. Au lieu de consulter Dieu, Dieu seul, il va se retourner vers les morts. Les morts ne peuvent plus rien faire. Les morts sont morts. Le passé, c'est le passé. Et souvent, je me demande, est-ce que souvent nous ne tenons pas tellement à notre passé que c'est une manière aussi de consulter des morts? Tellement le passé nous anime d'une manière féroce que nous nous en tenons fermement. On ne veut pas que le passé, c'était comme ça. Donc, ça serait comme ça. Et ça, c'est aussi une forme d'un culte aux morts. Les morts ont joué leur rôle quand ils étaient vivants. Les morts ont agi quand ils étaient vivants. Ils ont prêché la parole. Ils ont enseigné. Ils ont combattu le bon combat. Mais c'est terminé. Pour eux, c'est fini. On ne peut plus les faire revenir. Et Dieu compte sur nous aujourd'hui, les vivants, le présent. Que le Seigneur nous anime de cette réalité. Que notre passé ne soit pas très lourd pour nous, que cela nous paralyse. Et le fait de tenir fermement sur le passé nous fait oublier l'avenir, nous fait oublier le présent, nous fait oublier ce que le Seigneur veut de nous aujourd'hui, maintenant, dans cette église, en France, partout où le Seigneur nous a placés. C'est aujourd'hui, c'est pas le passé. Le passé, l'histoire, c'est le passé. Aujourd'hui, le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur veut de nous? Saül, lui, il s'est lamenté. Ah, Samuel est mort. S'il était là, j'allais le consulter. S'il était là, il allait me dire, qu'est-ce que j'allais faire? Mais finalement, je vais le faire revenir. C'est pourquoi le Seigneur dit que la divination est comme une idolâtrie. Et toutes ces choses sont vouées à l'interdit pour nous aujourd'hui. Deuxième signe, c'est le déguisement pour tromper son entourage et traverser des chemins tortueux. Saül se déguise parce que s'il voit, va directement vers la femme qui consulte, il sera rejeté. La dame ne va même pas accepter parce qu'il va dire non, je ne consulte plus. Parce que toi, tu as combattu contre nous, tu as été tellement un roi méchant, tu as coupé nos ressources, on ne vit plus, On n'a plus de consultation. Nos finances sont brouées. Mais tu viens me consulter? Non, je ne suis pas d'accord. Et il va prendre un déguisement. Le déguisement est toujours pour tromper. C'est pourquoi le Seigneur nous parle de ne pas être hypocrite. L'hypocrisie, c'est pour tromper. C'est toujours pour prendre une forme, paraître devant les gens pour ne pas perdre la face. Mais lorsque nous nous dépouillons de cela, nous venons à Dieu tel que nous sommes. Nous venons devant notre Seigneur tel que nous sommes. Et le Seigneur nous entend, nous écoute et il nous fait rétablir une relation. Saül était obligé de se déguiser. Troisième signe, la peur, l'angoisse envahissent Saül en voyant le camp des Philistins. La peur devant l'adversité démontre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Saül, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es angoissé devant l'ennemi? C'est parce que tu sais que ta relation avec le Seigneur, ça ne va pas. Si le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Si le Seigneur est avec toi, qui osera te toucher? Si le Seigneur est avec toi, qui peut s'élever contre toi? Le monde des ténèbres, ils sont vaincus. Ils sont terrassés. L'ennemi est terrassé. Si le Seigneur est avec toi, rien. Vis seulement ta vie avec lui. Profite de ton présent. Agis aujourd'hui. Saül, quatrième signe, il était abattu, anéanti physiquement. Verset 20. Il s'affala devant la dame. Un grand homme comme ça, un guerrier, un soldat fin, qui connaît les tactiques du combat, qui sait se défendre. Et voici, il est abattu devant la dame qui vient la consoler. Hé, hey, lève-toi. Hé, hey, grand soldat, tu es à terre, lève-toi. Seigneur Jésus, que le Seigneur nous aide à ne pas tomber si bas. Que le Seigneur nous aide, même si nous sommes tombés, de nous relever rapidement. Parce que Saül nous donne l'exemple. Nous ne sommes pas là pour dire des choses sur Saül, parce que Saül, si nous étions à la place de Saül, peut-être nous aurions fait pire. C'est la grâce de Dieu. C'est le Seigneur qui nous a gratifié, nous a fait grâce à cause de la croix du Christ. Que le Seigneur nous aide à tenir ferme. Même si nous sommes tombés de nous relever, ne reste pas là où tu es. L'année 2020 est passée, presque finie. Il va aller, l'année va partir avec ses problèmes. Mais nous, nous sommes au présent. Tant que nous vivons, nous voulons servir le Seigneur. Nous voulons glorifier son nom. Nous voulons que sa gloire se manifeste en nous, dans notre vie et dans la vie de l'Église, pour accomplir pleinement sa volonté. L'oubli complet de la souveraineté de Dieu dans le monde spirituel peut souvent nous atteindre. Souvent, quand nous sommes confrontés à des combats, à des difficultés, à des problèmes, à des soucis, on oublie que Dieu est souverain. Souvent, on a besoin de se rappeler que notre Dieu est souverain dans l'histoire, est souverain dans nos vies, est souverain dans nos foyers, est souverain dans l'Église et aussi est souverain dans le ministère. C'est juste un rappel pour nous, parce que nous pouvons nous oublier. De nous oublier ces choses. Saül fera face à son péché, car le diable ne s'est pas consolé. Le diable ne s'est pas pardonné. Le diable sait tout simplement servir certaines vérités de Dieu dans un but malsain. Le diable sait ça. Il l'a fait avec Jésus. Il lui a cité des versets qui sont vrais, mais en réalité, le but, c'est que Jésus obéisse à ça et pêche contre son Père. Le diable peut nous donner, nous faire sentir quelque chose de vrai. Non, ça c'est bien ça. Derrière, il y a quelque chose. Derrière, il y a des angles morts. C'est là que nous devons vraiment faire attention et discerner. Pour conclure, notre Dieu est un Dieu de grâce. Il accorde espérance, miséricorde et pardon. Dans Matthieu 12, verset 20, nous voyons que le Seigneur nous montre effectivement qu'il est un Dieu de grâce. Et c'est à nous de venir devant lui. Ce matin, nous avons médité ce texte. C'est dans le but de l'étirer, de faire voir la grandeur de l'amour de Dieu pour nous aujourd'hui. Si nous pouvons méditer ce texte aujourd'hui, c'est vraiment parce que Dieu nous aime. C'est parce qu'il nous a fait grâce. C'est parce qu'il veut nous conduire selon sa volonté et nous faire éviter les pièges que les autres, dans lesquels les autres sont tombés dans le passé. Le passé nous sert comme exemple, comme témoin pour permettre que nous ne tombions pas dans ces erreurs. Travailler à maintenir notre relation avec notre Dieu plus que tout. Lutter pour conserver notre relation, notre communion avec Dieu. Ça, c'est une lutte valable, une lutte essentielle dans la foi chrétienne. Lutter pour maintenir ta relation avec Dieu est important. Lutter pour conserver des titres, des privilèges, des postes, des relations humaines, même des relations humaines. On peut tout faire pour lutter pour conserver une relation humaine. Je me souviens, lorsque le temps était venu que je devais venir en France, ce qui m'a fait souffrir le plus, c'est mes amitiés que j'avais construites avec certains. J'étais tellement en relation, ils me comprenaient. Quand ils regardent mon visage comme ça, ils savent ce que je veux. Ils savent ce qui m'arrive. Ils savent, ils me comprenaient tellement. Et je les comprenais aussi. Et je voulais rester dans cette amitié-là. Je ne veux pas que ça bouge. Ensuite, la deuxième chose qui m'a encore gêné, c'est que j'étais dans la fonction privée, dans une école. J'ai fait un concours professionnel. Il y avait 5000 candidats. On voulait 1800 enseignants à ce poste-là. Et j'ai fait le concours et j'ai réussi brillamment. J'ai venu sur 1800, j'étais 68e dans la liste. Sur 5000 candidats. Et j'ai dit, mais pourquoi je vais laisser tout ça et partir. J'ai réussi. Une fonction professionnelle et la fonction publique au Burkina est meilleure que la fonction privée parce que en privé, ce n'est pas évident. Mais en fonction publique, il y avait une maison qu'on te donnait pour l'État, tu habites gratuitement. On te donnait soit une moto ou une voiture gratuitement. L'eau et tout ce que tu consommes, ce n'est pas payé l'électricité. Et ton salaire est multiplié par 3 ou par 4. J'ai dit, je vais laisser ça et partir pour servir Dieu. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, oui. C'est ça le Seigneur. Servir le Seigneur, c'est ça. C'est abandonner tout derrière toi et dire, faire confiance au Seigneur. parce que c'est lui qui pourvoit et c'est lui qui prendra soin de toi. Et la troisième chose que j'ai eu du mal à abandonner, c'est ma... Je sais que ma famille, elle est très, très importante pour moi. Dès que je me suis converti, il y avait une distance, mais je les aimais tellement. Je suis allé consulter mon père. J'ai dit, mon père, actuellement, je veux servir le Seigneur, je veux partir. Partir, non pas à Ouagadougou, la capitale, mais je veux partir jusqu'à très loin. Avec l'avion, il faut faire 5 heures, 6 heures pour arriver. Il a fait comme ça. Il a dit, si c'est Dieu qui t'envoie, vas-y. Moi, je suis ton père biologique, mais Dieu est plus grand et a plus d'autorité sur toi que moi. Vas-y, tu vas avec ma bénédiction. Et il était vraiment. Et ça m'a consolé. Trois privilèges que je luttais pour garder. Et le Seigneur vient et dit, mets ça de côté. Ma relation avec toi est plus importante que ces choses-là. Que le Seigneur nous aide aujourd'hui vraiment à ne pas lutter pour conserver certaines choses qui sont passagères, qui sont quelque chose qui est fini. Mais que notre relation, si notre relation est en panne avec le Seigneur, luttons pour ça. Prions pour ça. Rétablissons notre relation avec le Seigneur. Combattons pour ça. Parce que ça, c'est le meilleur. Et ça, c'est ce qui reste. Tout passera. Mais la relation avec notre Seigneur, ça restera pour l'éternité. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute son énergie, ainsi qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est bien plus important que tous les holocaustes, tous les sacrifices que nous pouvons faire. Faire confiance à notre Seigneur, même si nous avons péché, venir à lui, demander pardon sincèrement. Il est plein d'amour, il est plein de compassion et il est plein de miséricorde. Il nous pardonnera. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Souvent, vous qui êtes fatigués et chargés, souvent nous avons compris ça comme des soucis de la vie. C'est plus que ça. Ce n'est pas simplement les soucis, les difficultés de la vie. Oui, il y a ça dedans. Mais aussi, si nous sommes fatigués par notre péché, si nous sommes chargés par une culpabilité quelconque dans notre cœur, et ça nous pèse, le Seigneur est aussi fidèle pour nous décharger de cette culpabilité. Nous n'avons pas apporté une culpabilité encore. Il nous a libérés de tout péché. Il nous a pardonnés, il nous a sanctifiés. Nous sommes des saints devant lui parce qu'il nous regarde comme des saints devant son regard. Nous rappeler toujours que notre Dieu est souverain en Christ. Il nous a donné une victoire totale à la croix. Colossiens 2, versets 14 à 19, je vous donne ce texte. Relisons ce texte à la maison. Colossiens 2, versets 14 à 19 nous remontre la victoire de Christ sur tout et il nous a donné une victoire totale pour l'éternité. Prions. Seigneur, merci pour cette parole que tu me donnes ce matin. Seigneur, tu me permets de voir les angles morts de ma vie spirituelle, du combat spirituel, de la vie de mon foyer, de la vie de mon ministère, de la vie aussi de l'Église, de ton Église. Comme Saül, s'il avait vu et compris et discerné ses anglements, peut-être aujourd'hui nous allons parler de Saül autrement. Mais malheureusement, il n'a pas eu ses anglements et il est tombé dedans. Mais nous, nous avons la grâce et le privilège de découvrir ce texte et de pouvoir tirer des enseignements dans notre vie spirituelle, dans notre vie de communion avec toi, dans notre relation avec toi. Comme David a dit dans sa présidence, qui demeurera sur la montagne sainte de Dieu? C'est celui qui est intègre, intègre sur ses voies. J'aimerais, Seigneur, que ton intégrité, Seigneur, nous habite. Seigneur, fais habiter encore ton intégrité dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos vies, afin que nous puissions discerner chaque fois que notre communion avec toi est dégradée. Et peut-être il y a du brouillard. Peut-être les canaux ne sont pas bien fixés. Peut-être les fils, il y a du grisaillement. Seigneur, aide-nous à venir devant toi, devant ton trône de grâce, de miséricorde, de fidélité et d'amour, afin que tu nous pardonnes, afin que tu nous laves de tout péché, de tout manquement, et que nous puissions rétablir cette relation avec toi. Relation de confiance, relation d'amour, relation de paix, relation de joie, relation, Seigneur, oui, de victoire, parce que tu as triomphé à la croix. Seigneur, ce matin, j'aimerais prier pour chacun de nous. Nous te demandons, éternel Dieu, de nous aider. Parce que nous-mêmes, nous n'avons rien en nous qui puisse nous aider à le faire. Si tu ne l'as pas fait, nous ne pourrions pas le faire. Mais fais-le, Seigneur, dans ta grâce et dans ton amour, afin que nous puissions le pratiquer pour la gloire de ton nom. Bénis tous ceux actuellement qui ont une relation intense avec toi, dont il n'y a pas de brouillard, dont tout est net. Ils entendent ta voix, ils sont soumis à ta voix, à ta parole. Ils veulent marcher dans ta volonté. Seigneur, bénis-les et permets qu'ils persévèrent dans cette lancée. Seigneur, ceux qui sont, oui, dans des difficultés, Seigneur, fais grâce. Relève les genoux affaiblis. Relève ceux qui sont fatigués. Relève ceux qui invoquent ton nom, qui ont besoin, Seigneur, de voir cette grâce encore dans leur vie, ton esprit mouvoir, ton esprit agir, ton esprit réchauffer les cœurs et les relations les uns avec les autres. Seigneur, merci, parce que nous allons glorifier ton nom ensemble dans nos relations avec toi et les uns avec les autres. Seigneur, aide-nous à t'aimer comme il le faut. Aide-nous à t'aimer de tout notre cœur, de toute notre intelligence et de toute notre force. Et vivre au présent et vivre actuellement et ne pas trop nous accrocher à notre passé. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.